Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Charlie.
Vous allez être content parce qu'on reçoit un cycliste.
Enfin, un sportif.
Ouais. Alors Guillaume Martin, il est aussi philosophe.
Tiens,
il a écrit un livre qui s'appelle Socrate à vélo.
J'espère qu'il va pas s'échapper du Platon.
J'espère qu'il va relever le niveau un peu.
Moi, Charlie, je vois très bien le lien entre philo et cyclisme.
Merci Guillaume.
Oui. Les piqûres,
le philosophe.
Oui, merci. J'avais compris. Merci. Bref, Guillaume Martin, il a 25 ans, un casque de vélo, mais tout dans la tête.
En tout cas, il est dans une équipe belge.
Oui. Et comme disait Hegel à Schopenhauer, tiens, en v'là encore quel somme.
Je ne relève pas.
Il vaut mieux citer Pascal. Qui disait « L'homme est un cycliste, le plus faible de la nature, mais un cycliste pensant. »
Mais t'es sûr que c'est la citation exacte?
Alors ça, je suis sûr. Bon, Pascal, son truc, c'était plus la moto, mais il aimait bien le vélo aussi.
Non, mais attendez les gars, notre invité, il a quand même fait 21e du Tour de France l'année dernière.
Oui, à ça, il ajoute le fait que sport sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Monsieur paraphrase Rabelais maintenant.
Charline, tu connais tous les coureurs cyclistes.
Mais restez concentrés, Guillaume Martin, il a écrit un mémoire sur Nietzsche et le sport quand même.
On ne naît pas cycliste, on le devient.
Il faut beaucoup pédaler quand même.
Et dans son livre, il imagine Socrate, Aristote et d'autres philosophes qui s'entraînent pour le Tour de France.
Et on a mis l'écriture de son livre, ça s'est passé comme son apprentissage du vélo.
C'est-à-dire
comme sur des roulettes.
C'est brillant.
Ouais.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la Startup Émission. C'est Open Space où l'actualité tente de former une coalition avec la blague. Les jeunes ont permis de créer un espace vert au Parlement européen. Les moins de 35 ans ont massivement voté écolo en France, en Allemagne ou en Belgique francophone. Alors peut-on l'appeler la génération climat ?
Moi je bosse pas donc je prends pas la bagnole. Du coup je gagne pas de thunes donc je prends pas l'avion. Pour ce qui est de l'eau du robinet, on boit de la bière. Je pense que s'il y avait plus de types comme nous, la Terre, elle se porterait bien mieux.
Le Tour d'Italie a entamé sa dernière semaine. De plus en plus de coureurs osent dire qu'ils préfèrent le Giro au Tour de France pour des tas de raisons. Sûrement encore de l'anti-français primaire, il ferait mieux d'aller voir ailleurs si l'herbe est aussi verte.
Les Italiens sont pas bons pour la guerre, mais pour le vélo, ils connaissent. Les Polonais, c'est bons soldats, mais pour le vélo...
Une appli de rencontre pour les plus de 50 ans a prévu une option Boost Your Mom. Elle permet aux enfants de maman célibataire de rédiger le profil de celle-ci et de procéder au casting des prétendants.
Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien.
Je suis déjà impatient d'avoir la transition.
Il est tellement impatient qu'il a mangé le son. Car lui va s'empresser de répondre à ses annonces.
Voilà, bonjour, je sentais qu'on allait vers quelque chose comme ça. Bonjour Charline Valoudaquer. Et bien malgré tout, je vous mets une belle équipe autour de la table. Un peloton de gens brillants. À 17h20, suite à un problème d'avion, elle a passé 24 heures à Belgrade. Autant vous dire qu'on n'est pas à l'abri d'une chronique sur l'électro-bossanova underground serbe. C'est vous, Mélanie Bauer.
Oui, je vais encore utiliser la musique pour parler de moi.
C'est pas vrai. Les gens sont très demandeurs. Il y en a deux que ça intéresse, en tout cas beaucoup. 17h30, celui qui ne respecte aucune règle, si ce n'est celle des femmes. C'est vous, Guillaume Meurice.
C'est beau, puisque c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Faut-il rembourser les protections hygiéniques? Je suis allé voir nos concitoyens.
Pour les hommes aussi, quand ils sont incontinents.
Voilà, on est sur un bon niveau. Très, très bon niveau aujourd'hui.
Et enfin, 17h40, D'Artagnan avait une Constance Bonacieux. Nous avons une Constance Bonassouet. C'est vous, Constance. Oui, j'ai bossé aujourd'hui.
Bonjour.
De quoi me parler?
Figurez-vous, j'ai choisi le même sujet que Guillaume.
Et on s'y attendait un peu.
Voilà. Donc, je vais vous parler de mon flux.
Oui, c'est un, sous un autre angle, si je puis
dire. Oui, ça sera différent, certainement. Oui.
Allez, Fanny Naker, reprenez tout ça en
main. Mon Dieu. Alors, voici celui.
Il est parti.
À aborder les problèmes de flux avec nous et les faux plats de l'actualité. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes.
Guillaume Martin.
Oui.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Alex Vizorek.
Par Jupiter.
En attendant que Constance nous parle de son flux, vous écoutez par Jupiter, ça commence très bien. Alors je respire et j'accueille Guillaume Martin. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Vous êtes, vous baptisez le vélosophe parce que vous êtes moitié pro du vélo, moitié philosophe. Vous courez pour l'équipe belge Wanty Gobert. Vous revenez d'un stage de 2 semaines dans les Alpes pour vous préparer au Tour de France, j'imagine.
C'est ça, ouais.
Vous avez fait 21e lors de la dernière édition. Et vous publiez Socrate à vélo. C'est paru aux éditions Grasset.
Alex Vizorek, Kézako.
Moi qui aime autant le vélo que la philosophie, ben oui. Évidemment que je me suis plongé dedans. À la question pourquoi ce livre, vous y répondez vous-même. Avant tout pour questionner la manière dont le grand public perçoit les sportifs. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion que on reproche facilement à un footballeur de pas bien parler français. On reproche moins à un académicien de louper des pénaltys. Est-ce que c'est ça que vous vouliez mettre en réflexion vis-à-vis du grand public?
Oui, ben c'est sûr. Enfin, moi, je suis parti de mon ressenti, mm-hmm. de mon expérience, et puis ce que je vois, c'est que le sport, encore aujourd'hui, même si ça s'améliore, est mal perçu. Enfin, où les sportifs, en tout cas, sont perçus comme des bourrins, un peu des gens sans cervelle. Et moi, c'est pas du tout ce que je vis. Les gens que je côtoie au quotidien, mes équipiers, mes adversaires, sont des gens très intéressants. Et voilà, j'avais envie de les mettre en valeur et de mettre en valeur mon sport.
Et cette image tronquée, elle est due aux médias, elle est due aux sportifs qui parfois se ratent en interview, elle est due au grand public qui ne va pas chercher plus loin.
Bah, elle est due à plein de choses. Enfin, après, si on peut faire l'historique même de la séparation du corps et de l'esprit, alors ça peut remonter très loin. Je vais peut-être pas me lancer là-dedans.
Tentez le coup. Mais... Si vous me perdez, si vous vous échappez, je vous rattrape. Je vous le dirai.
Non, mais après, il y a aussi une chose, c'est que un sportif, il est bon par son corps. C'est son métier. Et donc, on peut dire qu'il a une intelligence corporelle. Et pour moi, ça, c'est une forme d'intelligence qui est peut-être différente de l'intelligence qu'on apprend à l'école, où il faut savoir construire des phrases, enchaîner des arguments. Mais pour moi, voilà, à l'école, on valorise une certaine forme d'intelligence, mais pour moi, cette forme-là d'intelligence n'est pas... plus honorable qu'une autre, que l'intelligence, par exemple, d'un joueur de football qui a une lecture du jeu sur un terrain, qui en un claquement de doigts ou de pieds, de doigts de pied.
C'est Thierry Henry, c'est les deux.
Voilà. arrive à trouver l'espace. Voilà, ça c'est aussi une forme d'intelligence.
Et vous dites que c'est parti un peu d'un article qu'avait écrit un journaliste de Libération et qu'il avait titré « Martin, le Nietzsche dans le guidon ». Et cet article-là...
Vous n'êtes pas les seuls à faire des jeunes mots.
De qualité. On s'est permis du coup, hein, la porte était ouverte. Mais justement, de ce portrait-là, vous dites, mais en fait, les journalistes sont pas très créatifs, ils ont lu celui-là, et ils me posent tous les mêmes questions, ils ont tous envie de me sortir comme le représentant des philosophes au milieu du peloton.
Bah, c'est sûr que moi, donc c'était en 2017, c'était mon premier Tour de France, ma deuxième année professionnelle, j'avais, je sais pas, 23 ans. Et enfin voilà, je suis arrivé là-dedans, donc dans le Tour de France, c'est quand même une grande machine, une grande messe, c'est aussi une grande foire. Et effectivement, il y a eu une attraction médiatique, un petit buzz suite à ce premier article qui, voilà, quand on est tout jeune, on arrive là-dedans, on est aussi pris par les enjeux sportifs qui sont là. On a envie d'être concentré sur les enjeux sportifs, mais il y a toute cette partie-là à côté qui est à gérer. Et voilà, c'était assez particulier et étonnant, en fait, de voir comment tout d'un coup, voilà, comme si ma personne se dédoublait, quoi. Il y avait moi et puis il y avait le personnage médiatique.
Et donc une fois arrivé, justement, une édition de livre, Grasset vous propose d'écrire un livre et vous avez ce concept qui est très marrant, c'est-à-dire que vous imaginez que des grands philosophes participent au Tour de France, l'équipe de Grèce revient et c'est Socrate, Aristote et Platon qui vont courir parmi les coureurs d'aujourd'hui ou d'hier et avec d'autres philosophes. C'est une idée que vous aviez depuis longtemps et du coup l'éditeur vous a mis le pied à l'étrier ou vous vous êtes dit mais il faut que justement je raconte en partie moi et en partie ce que je vis.
Alors l'éditeur, la Maison Grasset, m'a laissé totalement libre d'écrire ce que je voulais. Donc après moi, après le Tour de France, justement, j'ai commencé à réfléchir dans mon coin. J'avais m'est revenu en tête un sketch
des Monty Python.
Voilà, les Monty Python dont on parlait avant l'antenne, un match de football des philosophes. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas faire le Tour de France des philosophes.
Alors si je peux me permettre de lire une partie comme allez-y, ça, allez-y. Vous allez voir ce que ça peut donner. Donc on est à la conférence de presse et on pose une question à Aristote. On lui dit, est-ce que c'est possible de penser sur un vélo? Et il dit, il n'y a pas d'heure ni de lieu pour penser. La pensée irrigue toute chose, je dirais même plus, le vélo aide à penser. Flaubert disait, on ne peut penser qu'à si. Nietzsche s'opposait à lui en affirmant que seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose. Eh bien, le vélo réconcilie Nietzsche et Flaubert en réunissant les deux. Nous avons à la fois à être assis sur la selle et quand on pédale. Et donc, faire du vélo, c'est faire de la philo. C'est plein d'humour, c'est ça aussi que vous vouliez faire. C'est un long sketch aussi qui raconte aussi votre vie et l'ambiance de vélo.
Oui, bah, j'ai pas envie de, voilà, de faire une dissertation de philosophie.
Mais là, enfin, aussi, pas... on y trouve des phrases, on y trouve des accroches aussi.
Ouais, bah, j'avais envie, justement, de réunir un peu tous les publics et tous les milieux que je suis amené à côtoyer. Donc, j'avais envie d'écrire un livre qui puisse à la fois parler à, pourquoi pas, mes anciens profs de philosophie. Oui. Et d'ailleurs, il y en a certains qui se sont intéressés au livre. Je sais pas, j'ai pas eu de retour, mais enfin, les retours que j'ai eus sont plutôt positifs. Et puis, j'avais envie aussi, voilà, que ce soit quelque chose qui puisse plaire à mes coéquipiers, par exemple. Et là aussi, certains l'ont lu, le lisent, me l'ont demandé. Et donc, voilà, à ce niveau-là, je pense que le pari est réussi.
Ça va s'échanger dans le peloton cet été.
À propos de votre mémoire, vous avez eu du mal à trouver un professeur qui soit votre... Alors, je ne connais pas la terminologie en France, parce que nous, on appelle ça un maître de mémoire en Belgique, mais...
Directeur de mémoire.
Un directeur de mémoire, pareil, voilà. Ouais. Vous avez eu du mal à trouver quelqu'un qui accepte que vous parliez de sport et de philosophie dans un même mémoire ?
Bah, effectivement, au début, en plus, je suis arrivé dans une nouvelle université, à l'université Paris-Nanterre, en venant de l'université de Rennes 1. Donc, je connaissais aucun professeur. Et au début, ça a été un peu compliqué. J'ai eu, voilà, certaines personnes qui trouvaient ça trop exotique, entre guillemets. et puis, j'ai quand même eu vraiment de la chance, puisque finalement, j'ai pu trouver un directeur de mémoire, monsieur Jean-François Balaudet, qui en fait se trouve être le président de l'université Paris-Nanterre. Lui-même donc a une formation de philosophe, était professeur de philosophie, et il est surtout grand passionné de cyclisme, cyclo-sportif lui-même. Donc
il a accepté.
Donc évidemment que lui, ça lui parlait, ça dérangeait pas du tout.
Rappelez-nous le sujet de votre mémoire.
J'essayais d'envisager la philosophie de Nietzsche, Nietzsche comme un père possible du sport moderne. Donc voilà. On était un peu dans le même esprit.
Guillaume Martin, coureur cycliste de l'équipe Wanty-Gobert, qui publie Socrate à vélo, paru aux éditions Grasset. Il est avec nous jusqu'à 18h. On va parler du Tour de France, du Giro, on va parler d'Europe, d'écologie. On va parler d'appli de rencontre. De vous, Mélanie Bauer.
Et de flux.
Feu Chatterton, la Malinche. Allez, c'est parti.
Madame, je jalouse selon qui vous caresse. Prestement la joue. Des provinces andalouses, panaméricaines. Ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. À chaque missive la vois-je. Je crains de vous causer l'ennui. Et cette attente comme un missile endolorit ma tête. Vois-je, vois-je, endolorit ma tête. Vois-je, vois-je. Que deux fois passe le jour et vienne la nuit. Passe le jour et vienne la nuit. Me reviennent toi sur l'autre rive, et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir? Par le bout d'un écharpe, si tu te venir, étrange, étrange l'un à l'autre. Au cou, le souvenir, étrange, et je reste à Paname.
Oh oui, vous êtes sur France Inter, par Jupiter. C'est le coureur cycliste Guillaume Martin qui nous accompagne. Il publie Socrate à vélo aux éditions Grasset. Il a aussi écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Platon versus Platoche, qui sera jouée à Avignon cet été au Théâtre des Corsins tous les jours à 13h20. Vous pouvez nous dire quel est l'objet de la pièce ?
Ben, là aussi, je m'amuse à envisager des philosophes de manière un peu décalée. Alors cette fois, je suis parti de la vie du philosophe Platon bien connu, et pour l'imaginer en personnage frustré qui se rêverait grand homme politique, grand sportif justement, artiste. Et c'est encore une fois, voilà, une manière de parler de philosophie avec humour aussi, de manière un peu dédramatisée, en désacralisant la chose. Et voilà. Et donc je me suis
Guillaume
bien amusé
Martin
à faire ça.
Avec nous et autour de la table, Alex.
Et l'autre Guillaume, Maurice, oui, et Constance et Mélanie Bloch, qui nous parlera d'elle, en cas où c'était pas clair.
Ah, chouette.
C'est pas parce que des conneries étaient annoncées que le fait qu'elles se réalisent soit une bonne nouvelle.
Le journal de presque 17h17.
Si la connerie se mesurait, il servirait à nous mettre les talons.
Et on commence par les titres.
Après la débâcle chez les Républicains aux Européennes, Laurent Wauquiez veut mettre en place des états généraux.
Oui, autant aller directement au dépôt de bilan.
Gérard Larcher, lui, veut reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre, hors les Républicains.
Le type est à deux doigts d'inventer la République en marche.
Et les brèves.
Oui, parce que moi, j'ai pas besoin de lancer des états généraux des brèves. Donc bien axé sur LR les Républicains.
Oui, et chouette. Sur son compte Instagram, Carla Bruni a adressé un message pas vraiment subliminal à Laurent Wauquiez en comparant le score de LR aux européennes à celui d'il y a 10 ans quand son mari en était le président.
Eh oui, se moque parce que c'est vrai qu'aujourd'hui même Carla Bruni a plus de voix que les Républicains.
Et Laurent Wauquiez a répondu ?
Non, il n'a pas répondu, mais si j'étais lui, je posterais une photo de Carla Bruni il y a 10 ans.
Bruno Retailleau.
Non, c'est pas bien, c'est pas bien.
Moi j'ai pari.
Retailleau appelle lui aussi Laurent Wauquiez à démissionner.
Oui, mais non, il faut dire quand même qu'il y a une personnalité importante des Républicains qui n'a pas appelé à la démission de Laurent Wauquiez, bien sûr.
Ah bon, laquelle ?
C'est Laurent Wauquiez.
Ah, bah oui.
Oui. Allez, terminons la partie Les Républicains avec cette info.
7 parlementaires LR ont déposé une proposition d'amendement visant à sanctionner les parlementaires qui mâchent du chewing-gum de manière ostentatoire.
Ouais, ils vont nous manquer. Ils vont nous manquer quand ils seront plus là.
Allez, on passe à gauche, oui. Car au lendemain de sa défaite, Benoît Hamon a confié vouloir prendre du recul.
Il a vu son score, je ne sais pas s'il va pouvoir reculer beaucoup plus, le pauvre.
Judiciaire, oui. Maintenant, avec cette bonne nouvelle, Isabelle Balkany est sortie de l'hôpital, mais selon les médecins, elle reste encore fragile.
Oui, elle est presque aussi amoindrie que sa déclaration d'impôt, apparemment.
Oula, santé, toujours, car le tabagisme est la première cause de mort véritable en France. Oui, évitable, en France.
Pardon, c'est ça, la deuxième, c'est Nordal-Lelandais, la deuxième cause. Oui.
Effectivement. Environnement, maintenant, la Fédération Nationale Ovine réclame le droit d'armer les bergers contre les loups.
Aïe, on peut donc s'attendre à une diminution de la population de loups, mais sans doute aussi à une diminution de la population de cyclistes. Soyez prudents.
Feu d'hiver à Marseille, un jeune homme de 17 ans fabriquait des faux billets.
Et ouais, la vie est mal faite. Lui, il bossait vraiment pour avoir des faux billets et il va finir en taule alors que Pénélope Fillon, elle avait des vrais billets sans travailler et elle est libre. C'est vraiment pas bien. Oui, Robert Bernstein, fondateur de Human Rights Watch, nous a quittés malheureusement.
De quoi ?
Human Rights Watch, c'est pour ça que vous l'avez filé.
Le pauvre Robert n'aura pas supporté les conditions inhumaines de détention de Carlos Ghosn.
Oui, c'est triste. Et des brèves, oui, pour me faire dire Human Rights Watch. Allez, les brèves.
C'est pas fait exprès,
je vais dire les brèves. Allez, un japonais ivre au volant invoque le syndrome de l'autobrasserie aux policiers.
C'est-à-dire
qu'il dit que lorsqu'il est nerveux, son corps produit lui-même de l'alcool. Et les policiers ne l'ont pas cru. Ils n'ont pas saqué. Les policiers,
La dernière.
Attention, c'est un son. C'est un son. Là, on va bien rigoler. J'ai écouté le jeu des 1000 euros. Et la question n'était pas facile.
La question repêchage. Il va falloir reconnaître une voix de France Inter.
Mais oui, Nicolas, question toute simple. À qui appartient donc cette douce et délicate voix qui sévit tous les après-midi sur France Inter dans l'émission Par Jupiter ?
Et oui, on imagine que les joueurs de Nicolas Stoufflet, c'est les auditeurs d'Inter. Hein, c'est assez facile, mais Nicolas propose quand même des solutions.
François Morel, Guillaume Meurice, Tanguy Pastureau. Question voix de France Inter.
Pas facile, et il va encore aider un peu.
Il intervient dans l'émission de Charline et d'Alex à 17h.
Pastureau.
Le seum.
Il est 17h26 à Sainte-Honorine, la Chardonne. C'est en Normandie, c'est dans l'Orme. C'est le bled de qui Guillaume Martin.
Le bled à Guigui.
Le bled à Guigui. Alors ça y est, on a élevé les cochons ensemble. Guillaume Martin, coureur cycliste de l'équipe Vanti-Gobert. Et on va aborder ce premier sujet avec vous, Guillaume. En France, en Belgique francophone et en Allemagne, c'est la jeunesse qui a permis de hisser les Verts à des scores à deux chiffres aux européennes. Alors, est-ce la génération climat ? En France, les jeunes disent « Hasta siempre, Yannick Jadot
!» Greenpeace, il faut sauver les dauphins, SOS, l'Antarctique ne va pas très bien, tous les arbres sont nos amis, l'argent vous a rendu aigri, de Kingston jusqu'au Sable d'Olonne. On se bat contre Babylone, les patrons et les politicos, l'argent vous a rendu pas beau, peace.
C'est le palmacho. Alors, Guillaume Martin, l'Europe, elle se divise un peu dans votre génération. Vous avez 25 ans, c'est ça ?
C'est ça.
Entre génération climat et un peu génération identitaire aussi. Est-ce que vous, votre génération, vous la sentez tiraillée entre ces deux pôles-là, où c'est beaucoup plus complexe que ça ? Qu'est-ce que vous palpez dans votre génération ?
Déjà, moi, je suis plutôt génération climat, si on fait l'alternative.
Mm-hmm. Et déjà, vous faites du vélo, donc on peut pas vous soupçonner.
Et non, mais c'est vrai que dans le vélo, cela dit, il y a des, enfin, c'est assez problématique parce que on fait un sport quand même qui est censé être propre. Enfin voilà, mm-hmm. C'est zéro émission de carbone faire du vélo, mais quand on voit une course de cyclisme, c'est une course de moto. Il y a des voitures partout, il y a des motos partout, donc je pense que nous aussi on a une remise en question à se faire. Et voilà, il y a cette transition en ce moment, évidemment qu'on la voit. Moi je la vois effectivement avec aussi une tendance vers les extrêmes. Ça aussi je le sens aussi, évidemment. Enfin, je pense que tout le monde le sent, malheureusement. Et voilà, je pense qu'on a une croisée des chemins et voilà, faut prendre la bonne route, le bon col, faut pas prendre l'impasse, quoi.
C'est ça.
Il y a une conscience politique dans le peloton. Est-ce que vous parlez, parce que vous avez l'air de dire qu'en philosophie, j'imagine que vous êtes un peu seul à papoter philo, mais en politique, ça échange?
Oui, on échange sur à peu près tout, voilà, pas non plus à chaque repas, mais on peut être amené à discuter philosophie aussi, pourquoi pas, mais politique. En plus, moi, voilà, je suis dans une équipe belge avec des coureurs de différentes nationalités, donc ce qui est intéressant aussi, c'est de confronter vraiment les points de vue. Et quand on reste peut-être dans un milieu franco-français, on a une certaine manière de penser, une certaine manière de voir les choses, un certain prisme, et le fait de discuter avec des gens de notre génération qui sont italiens, qui sont belges, néo-zélandais, ça ouvre des portes, de nouvelles manières de penser, et je pense que ça enrichit les choses. Et je pense que du coup les coureurs cyclistes en tout cas sont assez ouverts à la discussion parce qu'il y a des échanges.
Les sportifs de haut niveau sont parfois un peu isolés. Vous, le fait d'être dans le peloton, ça permet de rester ancré dans sa génération. C'est forcément tous des jeunes, plus ou moins entre quoi 18 et 32 ans peut-être.
Ouais, un peu plus. C'est vraiment très large. Un peu plus tard, ça arrive une vingtaine d'années.
Mais c'est comme ça que vous restez ancré dans votre génération en tant que sportif de haut niveau, c'est en les fréquentant eux.
Oui, alors après, il y a un risque aussi, c'est de s'extraire aussi de... Enfin, c'est un milieu particulier, c'est un milieu, et donc, on dit la grande famille du vélo, et le risque, c'est de s'exclure, de n'avoir que nos propres considérations de sportifs et d'être un peu déraciné. Donc, c'est pour ça aussi que moi, j'essaye d'avoir des activités parallèles pour garder un lien avec d'autres choses et d'autres milieux. Mais
quand vous rentrez à Sainte-Honorine-la-Chardonne par exemple, hop, vous extrayez de votre milieu.
Voilà, tout à fait.
Vous revenez dans la réalité. 17h30 sur France Inter. Mélanie Bauer, peut-être quelque chose à proposer à Guillaume Martin pour ses entraînements? Mettre dans les oreilles?
Ah oui, 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 mais d'abord on va parler de moi.
Oui, oui. Oui.
Avec plaisir. Allons-y, je vous écoute.
On peut vous contrarier.
C'est dommage que tu ne sois pas une manuelle, parce que tu n'es vraiment pas une intellectuelle, me disait un ami de mes parents lorsque j'étais enfant. C'était pas faux. Je suis ni Mélanie, ni l'un ni l'autre, toujours un peu à côté, sans coordination, comme un crabe qui ne saurait pas filer droit. C'est pour ça que j'aime les artistes hors normes, c'est la famille, on se reconnaît entre nous, on se check du premier regard, comme les noirs, les gays ou les blondes peroxydées dans les soirées, hein, Constance ? Check.
J'ai pas compris.
Pour se dire, ah ouais, c'est vrai, toi t'es comme moi, t'es un petit peu zarbi. C'est donc sans surprise que j'ouvrais il y a quelques jours le mail d'un groupe inconnu, de chez Inconnu, qui disait « Bonjour Mélanie, on est le groupe Réveil Midi, créateur du mouvement Hippel Pop, donc nous sommes les seuls membres de ce mouvement. On vous écoute dans Par Jupiter et on s'est dit qu'on devait vous écrire, car après tout, il n'y a que vous d'assez folle pour vous en foutre qu'on n'ait que 7 fans sur 10 heures. »
Il a clairement frappé à la bonne porte.
C'était pas faux. C'était pas faux. Ils sont libertaires, ils sont rigolos et ils disent des gros mots. Ils s'appellent Réveil Midi.
Là, ils disent pas grand chose pour l'instant, mais.
On en est là donc, hein. Ouais. On en est arrivé là déjà.
Ils ont cassé la machine. Ouais. Réveil Midi, ils ont cassé la machine.
Alors on enchaîne.
Je suis donc ni. Oui, parce que. Vous en connaissez, vous, des gens qui partent en pleine élection européenne, en vacances, en Grèce, en voyage organisé pour oublier le stress et qui se retrouvent finalement, au bout de 3 jours, coincés en Serbie avec un professeur de danse de Bouto.
C'est vous, ça ?
C'est vous.
Ouais.
Oui,
le Bouto, c'est quoi ?
Provoquant et obscur pour certains, ludique et artistique pour d'autres, le Bouto est une danse d'avant-garde inventée par Tatsumi Ichikata au Japon dans les années 60.
Ouais, à Belgrade, j'ai découvert le Bouto. Il était sympa, ce monsieur, refoulé de l'avion et soupçonné de terrorisme par la douane serbe à cause de sa trousse à maquillage suspecte. Un mec qui se maquille, c'est zarbi. Ils l'ont immédiatement collé à moi. Moi, j'étais là, paumée par hasard à Belgrade, juste parce qu'il y a des gens qui planent. Et moi aussi, je plane un peu. Mais nous, les zarbis, on ne se laisse pas abattre. Hein. On remonte la pente, quoi qu'il arrive, comme le chanteur écossais Edwin Collins, star d'un jour avec l'action son A Girl Like You en 1994, paralysé en 2005 suite à une double hémorragie cérébrale et qui revient tel le grimpeur en moule couille avec un nouveau disque Bad B et ce titre qui veut tout dire I'm OK Jack. I'm coming home tomorrow. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir au milieu de ce grand n'importe quoi européen, c'est l'annonce du nouvel album des Washington Dead Cats. Vous vous souvenez de ce groupe culte des années 80 ? J'étais super fan de leur disque visionnaire Go Vegetable Go. Ils jetaient des légumes aux gens dans le public, les Washington Dead Cats, inspirés des séries Z, des 60s, mais aussi des Cramps avec le méga tube de Man With No Face. Gotta know if I'm on my heart full on the stage. Never let it up, it'll be more pain. They're all trying to back me down. I'm thinking they ain't fair around your body. Cool heart, this kid is not a cool heart, the soul. I'm better with the face. I am a face.
On adore.
Bon, alors ils reviennent donc avec un 12e album, Attack of the Giant Purple Lobsters. Ils seront en concert à Paris après-demain, le 30 mai, à la Maroquinerie, avec 15 nouvelles chansons enregistrées avec de très vieux instruments, des basses, des guitares électriques et des cuivres. Et je vous le confirme, ils sont comme moi, ils sont zarbi. Give birth to a new kind of life.
Les Washington Dead Cats, Attack of the Giant Purple Lobster, l'attaque du homard violet géant, on dirait un titre de Catherine Pancol, mais c'était une chronique de Mélanie Bauer, car les gens zarbi passent de la musique zarbi, et dans cette musique zarbi, il y avait...
Alors, problème technique tout à l'heure sur Réveil Midi, je vous invite à écouter Couper des têtes sur Internet, c'est un très très joli morceau, Réveil Midi, on pense à vous.
Merci, Mélanie Bauer. Le coureur cycliste Guillaume Martin est avec nous, également philosophe. Il publie Socrate à vélo, paru aux éditions Grasset, et il a écrit une pièce de théâtre, Platon versus Platoche, qui sera jouée à Avignon cet été. Guillaume Martin, est-ce que vous connaissez Guillaume Meurice?
Oui, bien sûr, mais je suis un de vos fidèles auditeurs.
C'est pas vrai. Vous êtes à vélo, dans les montées, tout ça, ou non? Alors, d'autres circonstances.
À vélo, dans d'autres circonstances, plutôt. Mais 5 heures, c'est plutôt là où les courses se terminent, donc pourquoi pas.
Ah, bah ça nous fait bien plaisir. Un point
commun. Dans le bus, en rentrant.
Un point commun avec le coureur Romain Bardet qu'on embrasse.
Oui, c'est tous les seuls auditeurs dans le peloton.
Guillaume Meurice.
Eh ben, c'est la journée internationale pour briser le tabou des règles aujourd'hui. Alors, les règles, pas les règles de grammaire et d'orthographe, sinon Alex serait mis à l'honneur immédiatement. Les auditeurs ne le savent pas, mais quand Alex nous écrit, on perd 2/10 à chaque œil quand même. Il sort de la Ribéry Academy. Non, les règles, les menstruations, parce que c'est un tabou persistant dans pas mal de sociétés, dont la nôtre. Pourtant, les femmes dépensent en moyenne 23 500 € dans leur vie en protection hygiénique. C'est quand même l'équivalent de 2 Twingo par vie dans leur vagin, quand même. Je fais des analogies pour que les mecs aussi se sentent pas trop pas concernés. D'ailleurs, je rappelle que si c'était un problème de mecs, il y aurait déjà des concours de tuning de Tampax et des lois pour les rendre gratos, d'où les propositions de plus en plus insistantes de faire rembourser ces protections par la sécurité sociale, lutter contre la précarité menstruelle, on appelle ça. Alors avant qu'Éric Zemmour ne tente de mettre fin à ses jours en bouffant des Vania Pocket, je suis allé voir le peuple de France et je suis d'abord tombé sur un citoyen qui serait d'accord, mais à une condition qu'on rembourse aussi les slips pour les mecs. Explication.
Vous êtes d'accord seulement si on rembourse les slips de mecs?
Oui, parce que moi j'ai des hémorroïdes, donc on ne rembourse pas, pourquoi on va rembourser les gonzesses?
Vous salissez beaucoup vos slips?
Ben, matin, midi et soir. C'est vrai en plus, pourquoi on rembourserait toujours les femmes?
Voilà, posons-nous, je pense, les bonnes questions, c'est important. Pourquoi on rembourserait toujours les femmes et pas les slips de ce monsieur? J'aime bien comme sujet parce que je trouve que ça ouvre d'autres portes, d'autres perspectives. Alors, les hémorroïdes feront peut-être l'objet d'une autre chronique, mais restons sur les règles et les protections hygiéniques, car ce monsieur a fait une étude de marché, coup de bol.
Mais bon, Lidl, ça coûte 10 centimes.
10 centimes, ouais.
T'as là tous les prix du Mira. Les couches. C'est les couches, non, en fin de compte. Les couches, les trucs hygiéniques.
Est-ce que c'est la même chose que les couches?
Non, mais je veux dire, bon, après, c'est comme dans les fringues, hein, du haut de gamme et du bas de gamme.
Hein. Voilà, c'est sûr, si on veut mettre du tampon Gucci ou Vuitton, bah, faudra pas faire le budget. Faudra pas le même budget qu'à Lidl. À Lidl, vous pouvez avoir 2 bouts de carton à 10 centimes, ça suffit pas. Voilà, il y a des cotons-tiges à 10 balles les 12 000. Je veux dire, il y a tous les budgets. Alors, c'est sûr que la qualité est peut-être pas top. C'est vrai qu'il y a une étude qui révèle qu'il y a tellement de perturbateurs endocriniens dedans qu'il faut mieux fumer un Tampax que de le mettre. Il paraît même que Trump ne veut plus vous attraper par la chatte qu'avec des gants MAPA. Mais il y a un moment donné, faut savoir ce qu'on veut, hein, n'est-ce pas, monsieur?
Dans la vie, deux trucs, soit qu'on bosse, qu'on est jeune à l'école, ou on bosse pas à l'école, après on bosse.
Et mais alors quel rapport avec les protections hygiéniques?
Non, bah si on a de l'argent, on peut...
Donc il faudrait que les femmes qui veulent acheter des protections hygiéniques travaillent plus.
Ouais, plus.
Voilà, et c'est travailler plus pour gagner plus, pour se payer des Always Ultra Plus. Hein, voilà. Alors, j'ai toujours la chance, moi, de tomber sur des gens qui ont des solutions. Ça, c'est chouette.
J'ai l'impression que vous les repérez même.
Et oui. Alors, eh ben, vous croyez pas si bien dire chance toujours. J'ai recroisé ce matin un monsieur que j'avais déjà interrogé sur Notre-Dame et qui avait une vraie expertise. Et alors là, je me suis dit, ça concerne les dames aussi, finalement. Bon, la cathédrale a plus de 850 ans, donc on peut parler quand même de ménopause. Mais je suis allé le voir quand même. Sans grosse surprise, il était contre le remboursement.
Attendez, les femmes, avant, qu'est-ce qu'ils avaient? Au lieu de se mettre les trucs là, qu'on achète en pharmacie maintenant, comment ils faisaient avant? Ils mettaient des torchons ou de la vie,
Est-ce que c'était mieux avant?
Étant donné, selon les écologistes, on doit revenir en arrière. Alors pourquoi pas ça?
Maintenant que Jadot est à 12%, mesdames, je suis désolé, il va falloir arrêter les conneries. Hein, on va arrêter de se foutre la forêt amazonienne dans la culotte. Hein, on sera bien gentil. On va revenir au bon vieux torchon Pissemar. Et encore le torchon, faut voir, parce que l'industrie textile, c'est un enfer écologique. Donc mettez quelque chose qu'on peut recycler. Une râpe à fromage, un bout de pneu. Enfin, démerdez-vous, mais pensez aux dauphins, bordel. Hein, quand même. Et interrogeons peut-être une des principales intéressées, une femme quand même. Qu'est-ce qu'elle en pense?
Bah oui, ça coûte cher peut-être, mais enfin bon, si on pouvait fallait rembourser tout ce qui coûte cher, alors là on n'en finirait plus. Hein.
Mais est-ce que c'est pas indispensable?
Non, je pense pas.
On peut s'en passer ?
Ça dépend pourquoi.
Ah, alors parlons-en. Ça dépend pourquoi. Parce que imaginons, on dit ok, on vous rembourse les tampons. Et si vous vous en profitez pour faire n'importe quoi, on fait comment ? Hein, on aura bien l'air malin. Imaginez, on rembourse les Moon Cup, vous en faites des projectiles pour lancer sur les coureurs cyclistes. Hein ? Guigui, il va pas être content pendant le Tour de France. Donc on aimerait bien savoir ce que vous allez en foutre de tout ça, d'accord ? Bon, allez, il est temps de conclure toujours avec cette dame.
S'il fallait rembourser les protections hygiéniques, pourquoi ne pas rembourser les mouchoirs en papier ? Bah, tout ça, ce sont des choses qu'on utilise maintenant, qu'on n'utilisait pas avant.
Est-ce que les mouchoirs en papier et les protections hygiéniques, c'est exactement la même chose ?
Non, mais c'est dans le même ordre.
Est-ce que les femmes ont aussi souvent le rhume que leurs règles ?
Oh, ah bah non, non, mais enfin là ça va trop loin.
Oui,
là.
Ça va trop loin, mais c'est pas moi qui ai commencé. Macron a dit ne suivez pas les règles, et en termes d'égalité, il serait peut-être temps d'en inventer des nouvelles.
Oh, merci Guillaume Meurice pour ce sujet, et tout à l'heure Constance va vous sucer la roue sur ce thème d'ailleurs, puisqu'elle va parler de son flux. En attendant, Guillaume Martin est en notre compagnie jusqu'à...
Il est bien tombé.
Guillaume est tombé le bonjour. Guillaume, vous êtes tombé vraiment le bonjour.
Métaphore filée du cyclisme.
Exactement,
associé à tous les domaines.
Il y a des blagues dans le genre dans le peloton, non, quand même. Déjà, c'est le peloton, donc pardon, mais...
Non, mais pour nous, toutes ces expressions, du coup, sont normales. Ce qui est rigolo, j'imagine. C'est que vous les sortez de leur contexte et vous les associez...
Pas du tout.
On les associe rarement au flux menstruel.
Vous avez très mal interprété, pas du tout. Guillaume Martin, coureur cycliste et philosophe dans l'équipe Wanty Gobert. Et on va parler du Tour d'Italie qui est en cours, qui s'était lancé le 11 mai depuis Bologne. Et les coureurs commencent à trouver ce Giro beaucoup plus excitant que le Tour de France, au point de privilégier l'un et pas l'autre. Alors vous, manifestement, vous privilégiez le Tour de France, puisque vous n'êtes pas au Giro, vous êtes dans Par Jupiter. Alors les coureurs, ils avancent...
Faire des choix dans la vie, voilà, le choix était vite fait.
On vous en remercie. Alors ces coureurs, ils avancent des tas de raisons, hein, comme les équipes en lice, la météo, le confort, mais surtout les coureurs notent que les Italiens sont beaucoup plus respectueux que les Français. C'est étrange.
Nous sommes à 5 km de l'arrivée et nous avons à nos côtés le jeune espoir Gérard Fagnon qui se trouve en tête de l'échappée. Il a le maillot jaune depuis deux étapes. Gérard, bonjour.
Bonjour.
Peux-tu dire bonjour à toute l'équipe d'Antenne 2, Gérard ?
Bonjour à toute l'équipe d'Antenne 2.
Gérard, nous sommes en direct. Fais un petit effort, je t'entends pas très bien.
Bonjour, toute l'équipe d'Antenne 2.
Gérard, peux-tu te rapprocher, s'il te plaît ?
Mais non, je peux pas, vous me faites perdre ma moyenne, poussez-vous.
Gérard, on t'aime, on t'adore. Gérard, tiens, un autocollant Antenne 2.
Attends,
Gérard.
Gérard, il est tombé.
Gérard, c'est littéralement gonflé dans le caniveau, je ne comprends pas.
Les inconnus, ça reste culte quand même. Guillaume Martin. Le vainqueur du dernier Tour d'Espagne, Simon Yates, a déclaré récemment en interview à propos du Giro « Je brûle de tenter de gagner cette course, mais aujourd'hui le Tour ne me fait ni chaud ni froid. » Est-ce que vous comprenez ces coureurs qui maintenant misent tout sur le Giro et moi sur le Tour de France, alors que vu de France, nous on a l'impression que c'est vraiment le Graal, c'est le Tour de France ?
Oui, je crois que le Tour de France, ça reste une course à part et ça le restera. Après, le problème, entre guillemets, c'est que c'est vrai que c'est une course, le Tour de France, qui devient un petit peu aseptisé parce qu'il y a depuis quelques années une ultra-domination de l'équipe Sky, désormais renommée Ineos. Et donc, ça laisse peu de place aux autres. Enfin, pour un coureur comme moi, c'est vrai que pour viser une victoire d'étape, par exemple, ou un très bon classement général, j'aurais peut-être plus d'opportunités sur un Giro, parce que voilà, la course est plus débridée, les parcours sont un peu plus, les pentes sont encore plus raides qu'au Tour de France.
Oui, ça grimpe plus, ouais.
Grimpe encore plus. Après, je crois que les organisateurs du Tour de France font quand même vraiment beaucoup d'efforts pour rendre la course plus attractive. Et par exemple, le parcours de cette année au Tour de France est vraiment très orienté pour les coureurs offensifs. Donc, je ne désespère pas.
Il démarre de Bruxelles, d'ailleurs, le 6 juillet. Et Radio France est la radio officielle du Tour de France.
Ce serait quoi votre objectif ? Parce qu'on va parler sport un peu.
Je peux poser une autre question que j'avais prévue avant. Le coureur suisse Steve Morabito dit au Tour, vous avez l'impression d'être dans un zoo. Le coureur est l'animal auquel on jette des cacahuètes. Sur le Giro, on a plutôt l'impression d'être dans un musée. Les gens viennent regarder les tableaux. Comment il faut l'interpréter, ça ?
Oui, c'est peut-être un petit peu... Enfin, je pense que voilà, les tifosi en Italie sont aussi assez assez chauds et virulents.
Mais autour de France, donc, la caravane du Tour et puis c'est les vacances aussi, elle draine un autre
public. Oui, c'est sûr que voilà, là, autour d'Italie là, il pleut tous les jours, donc évidemment que les gens sont pas en maillot de bain sortant du camping sur le bord de la route. Mais voilà, il y a partout ce phénomène des fans un petit peu éméchés.
Il y a une
aussi,
différence
parfois,
de perception en tout cas. Oui.
Alors, on venait aux sportifs. Ce serait quoi votre objectif ? À quelle place dans le classement général vous seriez content cette année ? Top 10 ?
Si c'est voilà, je suis encore un peu dans le doute quant aux objectifs que je vais me fixer. Si c'est pour viser un classement général, j'aimerais effectivement me rapprocher du top 10 pour refaire une place autour de la 20e place. Ça m'intéresse.
Ça serait nul.
Pas plus. Voilà, ce serait pas une progression.
On enlève le podcast si vous faites ça.
Mais après, ça peut être aussi délaisser le classement général pour viser une victoire d'étape, ce qui est vraiment.
Et vous avez déjà sélectionné quelques étapes sans me dire lesquelles, parce que sinon on est très écouté dans le peloton. Vous savez les quelques jours où il va falloir être en forme le matin ?
Il y en a beaucoup justement cette année. Il y a beaucoup d'étapes très vallonnées. Alors pour moi, ce sera pas. Moi, je suis un grimpeur, donc ce sera pas la Belgique, ce sera pas Bruxelles. Ce sera un peu plus tard. Il y a des étapes en Alsace. Donc là, je reviens de 15 jours en stage à Tignes. Il y a une arrivée à Tignes. Toute la dernière semaine, ce sera vraiment de la très haute montagne. Donc ça peut vraiment bien me plaire.
On va suivre donc Guillaume Martin. Et en attendant, on vous retrouvera sur les routes autour de Wallonie, autour de Belgique, au Critérium du Dauphiné, et puis bien sûr sur le Tour de France. Guillaume Martin avec nous, qui attend avec impatience des nouvelles du flux de Constance.
Comme toute la France.
Chers amateurs de boudin noir, de confiture de fruits rouges ou de viande saignante, réjouissez-vous car c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Youpi ! Les règles, les ragnagnas, les ragnouflettes, les machines ou encore les Anglais qui ont débarqué, que de mignonnes expressions pour définir le fait de saigner de la chatte tous les 28 jours. L'enfer commence vers 13 ou 14 ans et dure généralement jusqu'à environ 50 ans. Une femme a ses règles en moyenne 2250 jours dans sa vie, ce qui représente environ 6 ans et demi à saigner dans son slip tout en restant souriante et en continuant à vivre comme si tout allait bien. Pardon, c'est un peu nerveux. Dans beaucoup de cultures, le moment des menstruations est considéré comme une période où la femme est impure et dégueulasse, ou tout simplement casse-couille. Parce que c'est compliqué de mettre sa tasse dans le lave-vaisselle, Didier, plutôt que dans l'évier. Non, je ne suis pas agressive. Je dis juste que tes chaussettes en boule dans le panier de linge sale, si tu ne prends pas la peine de les déplier correctement la prochaine fois, je te les fourre dans le cul. Encore maintenant, considéré comme tabou et pire que de la merde chaude de clochard bourré, le sang des menstruations doit à tout prix être caché, absorbé, canalisé. Et pour cela, il y a un petit billet à mettre, mesdames. 23 500 euros, c'est la somme dépensée en moyenne par une femme dans sa vie pour se faire plaisir en s'achetant des jolies petites protections hygiéniques bourrées de produits chimiques comme du glyphosate ou du chlore. Parce qu'on ne chope pas assez de cancer avec toute la merde qu'on nous fait bouffer. Ben non, il faut aussi nous en fourrer dedans. C'est quand même vachement plus rigolo. Gilles, il nous reste des produits chimiques en stock, on en fait quoi ? T'as qu'à les mettre dans les serviettes et les tampons des gonzesses. Pourquoi je ferais ça, Gilles ? Pourquoi pas, André ? T'es un génie, Gilles. Merci, André. Je t'aime, collègue. Moi aussi, je t'aime, Gilles, depuis mon premier jour chez Monsanto. C'est ton portable que je sens, là ? Non, c'est ma bite. Je crois que nous allons laisser Gilles et André tranquilles. En plus de coûter un bras et d'être blindé de pesticides, les protections hygiéniques sont une véritable catastrophe écologique. On estime à 100 milliards le nombre de protections hygiéniques jetées dans le monde par an. Et pour se dégrader, ce genre de déchets met 500 ans. Voilà, maintenant que j'ai fini de dire cette phrase, j'ai envie de mourir. En plus de polluer à cause des règles, la femme est à l'origine de la montée du niveau des océans à cause du fait qu'elle n'arrête pas de chialer tout le temps et qu'à cause de ça, l'eau de la mer, elle est salée et elle monte. Si, c'est prouvé scientifiquement. On va tous mourir. On va tous mourir. On va tous mourir. Voilà. On pourrait s'acheter des serviettes en bio, en coton lavable ou opter pour une cup, mais c'est pas pratique. Je veux dire, tu vois, c'est comme le plastique, c'est quand même plus pratique. On continue parce que c'est pratique. C'est pas indispensable, mais c'est pratique. On va tous crever, on va tous crever, on va tous crever. Ça fait du bien de baisser les bras. Oh là là ! Bon, je vous laisse, moi, je vais chez Jiffy parce que j'ai besoin de rien, mais je trouve toujours des trucs à acheter. Constance !
Merci Constance. Vous aussi, vous faites un tour de France, vous jouez un peu partout dans
c'est
le pays.
C'est vrai, oui.
C'est vrai, on peut vous retrouver... comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver?
J'ai mon site internet, c'est Constance Officielle, et je mets les dates sur Facebook.
Ah,
et voilà. Mais là, j'ai plein de dates, mais je sais pas les dire.
Oui, mais on va les trouver, bien sûr. Constance, avec nous. Et Guillaume Martin, qui publie Socrate à vélo aux éditions Grasset, et qu'on peut retrouver sur les routes, sur les différents tours de Wallonie jusqu'au Tour de France. On va aborder ce dernier sujet avec vous, Guillaume. Si vous avez entre, allez quoi, 20 et 35 ans, vous avez jusqu'au 15 juin pour mettre votre mère célibataire sur le marché via une appli. C'est au départ une application de rencontre pour les plus de 50 ans qui a développé une option éphémère où l'enfant crée le profil de sa maman et peut ensuite sélectionner ses prétendants. La créativité des startups est sans limite. Hein.
Tu aimes les paysans, le sexe dans la paille, faire l'amour dans le pré?
Il y a
Tinder Country.
Tu préfères les latinos?
Tinder Bueno.
Mais si ton kiff, c'est de te taper des grosses?
Tinder Maxi.
Ou des chimails?
Tinder Surprise.
Coucou, c'est la surprise.
Mais si rien de tout ça ne t'intéresse et que ton truc, c'est plutôt les animaux?
Tinder Pingouin.
C'est un sketch extrait de Couleur 3, une chaîne de la RTS, la radio-télévision suisse. Guillaume Martin, ça vous paraît étrange, cette appli éphémère où on peut mettre sa mère sur le marché?
Non, ça me paraît tout à fait normal. C'est... Voilà, ça coule de source.
On est d'accord que c'est très très étrange. Est-ce que vous vous dites qu'on autorise ça ou que des gens le fassent? Je suis flippée de mes contemporains. Comment vous réagissez dans ces cas-là où...
Bah, qu'on autorise, voilà, ça c'est pas le problème, mais c'est qu'on ait l'idée de faire ça. Enfin, ouais, c'est étonnant. Enfin, oui,
ou qu'on s'autorise à le faire plutôt.
Ah oui, qu'on s'autorise à le faire, oui. Parce qu'il y a des gens qui le font vraiment.
Ah ben oui.
Ouais. Excusez-moi, le lauréat, c'est l'histoire du film. Il est plus âgé, il est plus jeune.
Mais via une appli, il a mis sa mère sur le marché. Non, bon ben voilà, rien à voir.
Surtout devient
Bancroft n'a pas connu.
Algorithmique quoi. C'est
mais ça se faisait dans l'autre sens depuis des générations. Les parents qui choisissaient les compagnons de leurs enfants. Pourquoi on changerait pas dans...
Si la fille de Mélanie Bauer nous écoute.
Ma chérie, jusque... je n'ai pas encore 50 ans.
Vous seriez open à ce que votre fille crée un profil?
C'est-à-dire que moi j'ai tellement mal choisi toute ma vie que je pense que si je laissais ça à ma gamine...
L'avantage, c'est qu'on peut choisir son futur beau-père. Ça, c'est un avantage. Guillaume Martin, où sont les filles sur les routes? Est-ce que... Quel
sur les
métier,
podiums d'arrivée.
À part sur les podiums d'arrivée, est-ce qu'il y a des nanas, quoi?
Le cyclisme féminin se développe de plus en plus, et c'est évidemment une bonne chose. Il y a de plus en plus de courses qui sont féminines qui sont télévisées.
Mais dans les courses chez les hommes, chez vous,
il y a des versions féminines.
Mais est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent sur, par exemple, sur le.
On n'est pas encore prêt d'avoir un directeur sportif féminin d'une équipe masculine.
Elles sont quoi kinés, à part hôtesse, je veux dire.
Il y a des putes, non?
Non, je n'ai pas peu côtoyé.
On dit hôtesse.
On espère au moins qu'on vous aura distrait, Guillaume Martin, entre tous vos entraînements. On est en pleine roue libre. Hein. On est vraiment. Guillaume, vous êtes tombé le bon jour. On est vraiment en roue libre totale.
C'est peut-être de sa faute, hein, il nous détend.
Mais oui, son livre tout est super, étendu. On est content de l'avoir. Voilà. Alors, on va jouer avec vous. Vous
connaissez l'émission, du coup, vous savez que vous allez passer au sketch. Et on s'est inspiré un peu de vous. On a aussi mis des philosophes, mais pas à la place de cyclistes, à la place de dirigeants européens, parce qu'ils se réunissent là à Bruxelles pour un petit peu voir comment le Parlement va s'agencer vu les élections européennes. Nous avons donc quatre dirigeants qui sont des philosophes. C'est les dirigeants français, néerlandais, belges et grecs. Vous êtes Socrate, comme le titre de votre livre, et les autres, vous allez les découvrir.
Taisez-vous!
Voulez-vous voir un fou? Prenez un miroir.
Pauvre con.
Eh oh, monsieur Finkielkraut, monsieur Socrates, vous n'êtes pas aware.
Et en plus, vous n'avez rien à faire ici, c'est une réunion de philosophes.
Exactly, pour parler de l'Europe, parce que l'Europe, c'est la life, tu vois.
Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi?
C'est Van Damme, un grand philosophe belge. Et vous?
Je suis Spinoza.
Évidemment, parce que Spinoza, c'est une femme.
Pourquoi vous dites ça? Spinoza, c'est pas une femme?
Si, sinon elle s'appellerait Spinozo.
Ok. Et ces élections européennes alors?
Les élections européennes.
Merci pour la profondeur de cette analyse.
Moi je dis, si on enlève l'Europe de la Terre, ça fait un grand trou de 10 millions de kilomètres carrés.
Ça, c'est votre analyse de la poussée du vote pour les écologistes.
Les vers, c'est la vie, et la vie appartient à tous les vivants.
Pardon, mais je comprends rien ce que vous dites.
Et c'est pourtant le principe de la philosophie, Madame Spinoza.
Et la philosophie, c'est comme quand tu close your eyes en marchant sur un fil.
Oh la vache, faudrait que je pense à l'inviter sur France Culture, celui-là.
Et que dire de la poussée des nationalistes?
Les nationalistes, je les casse entre mes fesses, tu vois.
Chez moi, aux Pays-Bas, ils sont passés de 4 à 0 députés.
Et chez vous, monsieur Finkielkraut?
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je sais pas. Gna 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 gna.
Selon les statistiques, il y a un Français sur deux qui n'a pas voté.
Et alors?
Et alors, ça veut dire qu'il y a un Français sur deux qui a voté.
Ah, bah cette fois, j'ai compris. Ouais.
C'est bien. On avance.
Évidemment,
vous.
L'Europe, c'est comme le vélo.
Pardon, mais je vois pas trop le rapport.
L'Europe, c'est Bruxelles.
Et
dans Bruxelles, il y a Celle.
Ah, bien vu. Il y a pas à dire. C'est beau, l'Union Européenne.
Une conclusion, monsieur Finkielkraut?
Gna 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 gna, pauvre con.
J'avoue, je m'y attendais un peu.
Guillaume Martin, qui a été comédien, mais qui écrit des pièces de théâtre aussi. Je rappelle que Platon versus Platoche, vous pourrez le voir à Avignon, au Théâtre des Corsins, tous les jours à 13h20. Guillaume Martin,
texte est publié aux éditions de L'Harmattan aussi.
Ah, très bien. Et puis, vous publiez aussi aux éditions Grasset, Socrate à vélo, dont on a parlé au début de cette émission. Guillaume Martin, donc de l'équipe Vintigobert, qu'on retrouve sur les routes, autour de Wallonie, autour de Belgique, qu'on vous suit. Suivra aussi Guillaume au Critérium du Dauphiné et bien sûr cet été sur le Tour de France qui démarre le 6 juillet. Radio France est partenaire. On est derrière vous Guillaume et on va laisser le mot de la fin plutôt aux applis pour les mamans. Ça c'est rigolo très.
Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais même.